Bonjour mes frères et mes sœurs. Aimez-vous les choses amères, des choses qui n'ont pas de goût, des choses qui sont déplaisantes? Aimez-vous même des expériences amères? Nous aimons ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est agréable, agréable à voir, à entendre, à toucher, à sentir, à goûter, certes, mais pourquoi est-ce que, d'une façon générale, nous ne faisons pas attention à ce que nous disons? Car ce qui est amer, nécessairement, n'est pas quelque chose dans le domaine physique. Voyez-vous, par exemple, un caractère amer, ce n'est pas agréable. Vous avez une façon de parler amer, ce n'est pas agréable. Vous avez des sentiments amers. Vous avez une façon de vous exprimer qui déplaît aux autres et qui rend les autres amers à votre égard. D'une façon générale, voyez-vous, nous autres humains, nous n'aimons pas ce que les autres font. Nous trouvons peut-être même dégoûtant, mais nous ne faisons pas attention à ce que nous disons, à la façon dont nous nous exprimons, à l'amitié que nous montrons aux autres. Je parlais de l'amertume ou de ce qui est amer. Mais prenons l'exemple d'un enfant. Donnez à un enfant quelque chose qui soit amer. Il fera une grimace. Certes, même les adultes feront des grimaces, sauf que ça sera peut-être des grimaces différentes. Mais une chose est certaine, ce qui est amer n'est pas agréable. Que ce soit dans ce que nous touchons, nous sentons, nous goûtons, ou même dans ce que nous entendons. Et c'est ça, justement, aujourd'hui, le sujet de mon sermon. Ce qui est amer dans la conversation produit l'adversité. Ce qui est amer dans la conversation montre la méchanceté. Et ça nous blesse. Lorsque vous avez un caractère amer, la plupart du temps, cela vous éloigne des autres. Cela crée entre vous deux une sorte d'hostilité. Tout cela est une distance, ça crée une distance entre vous et les autres. Autrement dit, l'amertume est quelque chose que nous devons éviter, quelque chose qui n'est pas agréable. Eh bien, comme vous pouvez constater ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir, tout dépend là, au moment où vous entendez ce sermon, l'amertume est quelque chose que nous devons éviter, absolument éviter. L'amertume crée en nous des sentiments hostiles. L'amertume est quelque chose qui nous éloigne des autres. L'amertume résulte de ce qui est amer, certes, ça c'est facile, mais avez-vous jamais songé à ce que je vais vous dire maintenant? L'amertume déchire, détruit toute amitié, tout sentiment, je dirais, agréable. Mais qu'est-ce que c'est l'amertume exactement? Pourquoi avons-nous des sentiments d'amertume dans nos cœurs? Pourquoi avons-nous de l'amertume dans nos conversations? Qu'est-ce qui produit l'amertume? Pourquoi avons-nous de l'amertume envers les autres? Et ainsi de suite. Voyez-vous, il y a plusieurs façons de traiter l'amertume et aussi d'être blessé par l'amertume. Parfois, ce sont des choses ridicules. Parfois, ce sont des choses banales. Mais quand même, banales ou non, une fois que l'amertume est créée dans notre caractère, nous avons mille difficultés à nous en débarrasser. L'amertume est un sentiment qui vous éloigne de votre prochain. L'amertume est un sentiment en même temps qui vous éloigne de votre Créateur. Humainement parlant, l'amertume est quelque chose qui vous blesse, quelque chose qui cause la tristesse. Elle crée en vous un ressentiment mêlé de tristesse, de déception. c'est un sentiment, tout court, qu'il faut absolument éviter. Je me rappelle l'exemple d'un jeune homme, il y a longtemps. Il était triste, très triste. Son cœur était plein d'amertume. Mais pourquoi ? Il était riche, ses parents étaient riches, il était en bonne santé, il avait tout ce qu'il voulait. Seulement, il a eu, dans sa jeunesse encore, une aventure avec une jeune fille, et tout était devenu, depuis lors, amer. Parce qu'elle l'a quitté. Alors, il ne voyait plus rien que tristesse, mauvaises choses, mauvaises idées, mauvaises pensées, et la vie le dégoûtait. Et pourquoi ? Pourquoi si peu de choses puissent changer tellement de choses dans notre vie à cause d'une déception ? Voilà que tout d'un coup, sa vie avait changé. C'était plus la même. Et la dernière fois que je l'ai vu, je ne sais pas c'était quand, mais il était toujours le même homme triste, le même homme amer, le même homme dégoûté de la vie. Et rien ne l'intéressait, et lui-même ne s'intéressait à rien. C'est un exemple un peu fort, je sais. Mais il y a des gens qui sont comme ça, vous savez. Ils sont tellement amers qu'ils ne peuvent même pas voir quelque chose de beau, sentir une belle fleur, mettons, sans changer de visage. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que c'est qui nous rend si amertume ? Dans ce cas de ce jeune homme-là, ses sentiments avaient dominé sur lui. Il était devenu victime, la victime même de ses sentiments. Il y a des gens comme ça, mais si nous sommes chrétiens, si nous sommes vraiment enfants de Dieu en puissance, nous devons faire tout notre possible afin de pouvoir changer de caractère, dominer sur nos faiblesses, avoir ce courage dont nous avons besoin pour pouvoir vraiment avancer avec courage, avec reconnaissance, avec gratitude. Et surtout avec appréciation. Appréciez ce que vous avez, appréciez ce que vous voyez, appréciez les conditions dans lesquelles vous vivez, même si vous êtes pauvre, même si vous n'avez rien. Je sais ce que je dis parce qu'il y a beaucoup de gens en ce bas monde, surtout à l'heure actuelle, qui sont pauvres, qui souffrent, qui sont malades, qui se font tuer dans des guerres. Comment est-ce qu'on peut, dans ces cas-là, avoir une bonne attitude ? Et comment ne pas vraiment tomber dans l'amertume ? Ce sont des questions valables. Ce sont des questions qui sont importantes et je voudrais justement aujourd'hui vous parler de cela, vous encourager, vous montrer le chemin pour sortir de ce que nous appelons l'amertume. C'est grave, c'est très grave. Voyez-vous, si nous, en tant qu'êtres humains, nous n'avons pas appris à être reconnaissants, à être vraiment heureux de ce que nous avons, à ne pas apprécier, même si nous sommes dans la pauvreté. Parce que, écoutez, à quoi bon être en ce bon monde si nous sommes pleins d'amertume et si nous ne faisons rien pour changer ? Le dictionnaire, si vous en prenez un, hein, vous verrez que le dictionnaire, dis-je, définit l'amertume comme étant un sentiment de quoi ? De tristesse, de déception. Bon, mais la vie chrétienne ne doit pas être pleine de tristesse et de déception. La vie chrétienne doit être une vie pleine de joie, pleine de, je dirais, de plaisir à vivre, plaisir à partager ce que vous avez. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 14 à 15, l'apôtre Paul parle de l'amertume. Ailleurs dans la Bible, vous verrez aussi des phrases, des versets où il y a beaucoup d'instructions comment éviter l'amertume. Mais ici, pour commencer, voyez comment l'apôtre Paul définit l'amertume. Il dit « Recherchez la paix ». C'est intéressant parce qu'il commence par l'opposé. « Recherchez la paix ». Avec qui ? Avec les vôtres ? Non, avec tous. Voilà déjà le commencement. Le secret d'avoir accès au bonheur. Il dit, recherchez la paix avec tous, la sanctification. C'est quoi la sanctification? Quelque chose qui est saint, quelque chose qui est agréable, quelque chose qui vous mène vers le succès. Sans laquelle, dit-il, personne ne verra le Seigneur. Tiens, ça veut dire quoi ça? Autrement dit, nous sommes nés pour être un jour dans le royaume de Dieu. Nous sommes nés pour être des enfants de Dieu. Et si nous n'avons pas pu résoudre nos propres problèmes avec l'amertume, nous ne pourrons pas voir le Seigneur. Nous ne serons pas avec lui. C'est grave. Ensuite, Paul ajoute au verset 15, « Veillez, dit-il, à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » C'est quoi la grâce de Dieu? « À ce qu'aucune racine d'amertume... » Notez voir, il dit « Aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » J'aime ce mot « infecté ». Enfin, infecté dans le sens que ça vous donne une idée générale de ce que c'est. Quelque chose d'infecté, ça se propage. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de quelque chose d'infecté à moins que vous ayez à la racine. La Bible nous annonce d'avance que la fin de l'amertume, si elle n'est pas éliminée, cette amertume, c'est la fin. Autrement dit, c'est l'échec. Alors, si vous prenez la Bible, et si vous commencez à chercher dans la Bible des exemples, vous verrez que la Bible vous donne des exemples d'amertume qui sont très clairs, et la Bible nous montre aussi également comment éviter l'amertume. Je vous répète, mes frères et mes sœurs, si vous êtes vraiment chrétien, si... Mettons, vous observez toutes les lois divines. Si vous faites votre part afin de ne pas détester votre prochain, afin d'aimer votre prochain, et que vous faites vraiment tout ce qu'il faut faire en tant que chrétien pour observer les sabbats, pour observer les fêtes de l'Éternel, pour observer les commandements divins, si vous faites tout cela, vous versez les dîmes et tout ce que vous voulez, mais si vous avez de l'amertume dans votre cœur, et si cette amertume est toujours là, si vous n'avez pas pu éliminer cette amertume, il y a beaucoup de chances que vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Je suis sérieux. Vous pouvez être un bon chrétien à vos yeux, aimer votre prochain comme vous-même, mais si vous avez de l'amertume dans votre cœur et que cette amertume commence à être infectée, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Dans l'Ancien Testament, et je répète pour ceux qui sont nouveaux, l'Ancien Testament n'est pas séparé du Nouveau Testament. Les deux testaments ensemble forment la Bible. Donc, dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome chapitre 29, versets 18 à 19, nous lisons « Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, ni personne dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel. » Parce que dès que vous vous détournez de l'Éternel, vous êtes déjà dans la mauvaise attitude. Et vous avez déjà automatiquement de l'amertume dans votre cœur. Il dit, notre Dieu pour aller servir d'autres dieux, ou les dieux de ces nations-là, qu'il n'y ait point parmi vous, pas de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Autrement dit, ici, la Bible parle de l'amertume comme étant du poison, de l'absinthe. Ce sont des choses sérieuses. Je continue, verset 19, Deutéronome 29, que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, déclare Dieu, caractérisée avec un serment, ne se glorifie dans son cœur, ne se dise j'aurai de la paix. J'aurai la paix quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. La Bible est claire. Vous n'aurez pas la paix, vous n'aurez jamais la paix si vous avez de l'amertume dans votre esprit, dans votre cœur. Vous avez beau prétendre, comme la Bible parle ici, l'amertume est une maladie en même temps. C'est une maladie contagieuse, si vous voulez, mais c'est comme une drogue. Donc, si cette drogue en vous n'est pas éliminée, si cette drogue en vous cause des effets, il faut avant tout vous débarrasser de cette drogue avant de commencer à changer votre attitude et changer votre façon de vivre et aussi changer vos sentiments pour devenir vraiment chrétien. Car une fois que vous êtes la victime de l'amertume, vous avez besoin d'un médecin. Je ne parle pas d'un médecin physique. Je parle de l'Éternel Dieu. Je parle de sa Bible. Je parle des instructions qu'il vous donne dans la Bible très, très clairement, afin que vous puissiez vous vaincre ce sentiment qui est extrêmement général et en même temps qui nous fait pécher. L'amertume est l'une des principales armes dont Satan, le diable, se servent. Eh oui, ce monde où nous vivons à l'heure actuelle est dominé par des sentiments sataniques. Vous savez pourquoi? Parce que d'abord, Dieu a permis et avait permis à Satan de rester ici en tant que chef de la terre jusqu'à ce que le Christ revienne. Pour le moment, Satan, le diable, comme la Bible dit, est encore le dieu de ce siècle. Et Satan, le diable, a énormément influencé, et influence encore, votre caractère et le mien. Il nous influence, il nous décourage. Il fait tout pour que nous puissions nous-mêmes être amers. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il est, lui, devenu l'être le plus amer en ce bas monde. Il avait au commencement, avant même la création de l'homme, tout pouvoir sur cette terre. Il était au-dessus des anges. Il les gouvernait. Il avait toute puissance qu'on puisse vraiment désirer. Mais non, il ne s'est pas arrêté là. La vanité lui a créé dans son cœur de l'amertume. Pourquoi l'amertume? Parce qu'il voulait avoir plus qu'il n'avait. Il voulait avoir ce que Dieu a. Il voulait s'asseoir sur le trône de l'Éternel Dieu. Autrement dit, Satan voulait être Dieu. Il avait tout sous Dieu, tout pour être heureux, tout pour être glorieux, tout pour être intelligent et tout ce que vous voulez. Mais il a abandonné tout ça, il s'est détourné de tout ça pour succomber à sa vanité, pour devenir lui-même Dieu. Là, vous connaissez la fin, c'est normal. Il est tombé, il a chuté, il a tout perdu. Voilà pourquoi, depuis lors, Satan est devenu l'être le plus, je dirais, amer, et il veut que tous soient comme lui. Il veut que tous soient victimes, en ce qui concerne de leur propre caractère, victimes de leur sentiment de vanité, victimes d'être, comment dirais-je, victimes de ce qu'ils veulent quelque chose et ils ne peuvent pas l'obtenir. Voilà pourquoi je répète, Satan est l'être le plus amer en ce bas monde et il fera tout pour que vous et moi, nous tous, nous puissions nous aussi tomber victimes de sa rébellion. Commencez-vous à comprendre. L'amertume, c'est la déception. L'amertume, c'est la jalousie. L'amertume, c'est la vanité, c'est l'orgueil. Ceci est écrit dans Ésaïe chapitre 14, versets 12 et 15, je cite. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant. » Avant de devenir Satan était astre brillant, Lucifer. C'est un archange. La Bible définit comme fils de l'aurore. Ensuite, Dieu dit dans Ésaïe 14, verset 12, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Pourquoi? Verset 13. Tu disais en ton cœur, je montrerai au ciel. Regardez voir cette ambition qui a créé en Lucifer le sentiment qui l'ont fait devenir Satan. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion, c'est-à-dire là où se trouve le trône de Dieu. Évidemment, Satan a désiré quelque chose qu'il ne pouvait pas avoir et qu'il ne méritait du reste pas. Et c'est parce qu'il a été en échec, parce qu'il n'a pas réussi, son cœur est devenu amer. Parce que Satan disait, verset 14, « Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Et Dieu ajoute, « Tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Les sentiments d'orgueil, de vanité, de jalousie, créent en nous de l'amertume. Je répète, les sentiments d'orgueil, de jalousie, d'amertume, tout ça crée en nous de l'amertume. Comme du reste de tous les autres sentiments qui revêtent ou bien ressortent de la rébellion. La rébellion est en même temps un manque de reconnaissance. La rébellion est en même temps la vanité parce que vous pensez que vous savez mieux que celui qui vous donne un ordre. Si, je répète, vous êtes un enfant de Dieu, si vous voulez vraiment obéir à Dieu, faire sa volonté, il faut que l'amertume sorte de votre cœur, il faut que la rébellion soit éliminée dans vos sentiments, il faut que vous puissiez devenir vous-même un enfant véritable de Dieu. Prenez l'exemple du premier couple. Le premier couple a eu un enfant, des enfants plus tard, mais le premier enfant qu'ils ont eu, Caïn, ensuite Abel, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Caïn n'a pas obéi aux ordres de Dieu. Caïn a pensé que lui pouvait offrir à Dieu une offrande, laquelle, d'après lui, serait meilleure que ce que Dieu lui avait commandé de donner. Tandis qu'Abel a obéi à Dieu. Abel a donné à Dieu une offrande que Dieu acceptait, tandis que Caïn a donné à Dieu une offrande qu'il pensait que c'était préférable. Voyez-vous, une fois que vous commencez à avoir une attitude de rébellion et que vous n'êtes pas béni, évidemment, automatiquement l'amertume commence à dominer votre cœur. Laissez-moi vous citer ceci dans Genèse chapitre 4, verset 30, verset 3 à 8. Genèse 4, 3, 8. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Pourquoi fruits de la terre? Est-ce ça que Dieu avait demandé? Je continue. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Regardez voir la différence. Et leur graisse. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit qu'il fallait que le couple, ou bien l'humanité, offre donc des premiers nés du troupeau. Et non pas tout simplement ramasser ce qui était produit de la terre. Enfin, ça, c'est pas un détail, mais ça, c'est pas la raison principale, je cite ceci, c'est pour vous montrer l'attitude de Caïn. Donc, lorsque Caïn a vu que Dieu n'avait pas porté un regard agréable sur son offrande, il fut quoi? Irrité. Mais pourquoi? Vous désobéissez, vous faites quelque chose à votre façon, et voilà que vous êtes fâché. Mais pourquoi? Si vous avez fait une faute, repentez-vous-en, mais ne soyez pas fâché, ne devenez pas amer. Son visage fut abattu Autrement dit, son visage exprimait son amertume. Alors Dieu fait exactement ce que je suis en train de faire maintenant. Dieu a dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu vraiment es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi donc ton cœur est plein d'amertume? Si tu agis bien, ajoute Dieu, verset 7, tu relèveras ton visage. Et tu, si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, dit-il, domine sur le péché. Caïn n'a pas écouté cela. Caïn était toujours irrité parce que il pensait que Dieu était injuste. Regardez voir l'amertume de Caïn, jusqu'où ça l'a amené. Rappelez-vous, c'est le premier, sont les premiers enfants sur cette terre, Caïn et Abel. Alors, Caïn adresse la parole à son frère Abel, sans les deux, sauf les parents. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jette sur son frère Abel et le tue. Regardez voir. À ce point-là, Caïn était fâché contre son frère, parce que son frère a été béni par Dieu, alors que lui-même ne l'était pas. Il ne l'était pas parce qu'il n'a pas fait ce que Dieu lui a dit. Ensuite, il est devenu amer. Et ça l'a amené à être criminel. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons des sentiments pareils dans d'autres exemples, et nous pouvons toujours comprendre comment dompter nos sentiments d'amertume, comment éviter les dégâts causés par l'amertume. L'apôtre Paul en parle assez fréquemment dans ses épîtres, et il cite surtout, il écrit surtout des versets que je voudrais vous citer aujourd'hui. C'est dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27. Éphésiens 4, versets 26 à 27. Notez-le. C'est très intéressant parce que l'apôtre Paul vous montre comment éviter pour que l'amertume ne crée pas en vous des sentiments criminels, comme ça a été le cas, par exemple, avec Caïn. Paul écrit, Éphésiens 4, 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, voilà, parce que déjà vous êtes en danger, vous êtes en colère, ne péchez point. Caïn s'est mis en colère, il a commis le meurtre. Vous vous mettez en colère, peut-être, je ne sais pas, vous commettez un péché. Alors, Paul dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Autrement dit, n'allez pas vous coucher jusqu'au moment où vous avez trouvé la paix dans votre cœur. Ne donnez pas accès au diable, voyez-vous. Ce que j'ai dit ici, c'est exactement ce qui s'est passé à Satan le diable. Donc Satan a influencé Caïn pour que Caïn agisse comme lui-même agit contre Dieu, en se mettant contre Dieu, en se mettant en rébellion. Et l'apôtre Paul dit ne suivez pas cet exemple. Ne faites pas comme le diable. Ne faites pas comme, j'ajoute, Caïn. Vous savez, c'est un conseil extrêmement important. Moi-même, j'ai appris à mettre ce conseil en pratique. Lorsque quelque chose m'énerve, lorsque quelque chose me pousse à dire des choses ou à écrire une chose que je ne devrais pas, je ne le fais pas. J'attends jusqu'à ce que je trouve le calme pour pouvoir agir. Et si, d'autre part, s'il faut que je me repente d'un péché, s'il faut que j'aille trouver quelqu'un pour exprimer ma tristesse, ma déception, si vous voulez, mon chagrin d'avoir fait quelque chose de mal ou mauvais, alors je ne laisse pas le soleil se coucher. Je vais d'abord me repentir. Je vais d'abord demander pardon. Vous verrez la différence. Si quelque chose, vous avez quelque chose contre votre frère, si c'est possible, allez le trouver. Faites la paix avant de vous coucher. Dans mes occupations, dans mon travail, j'ai souvent des lettres à écrire. Et parfois, je suis moi-même dans une mauvaise attitude parce que je vois que la lettre est offensive. À ce moment-là, je n'écris pas la réponse. J'attends. Et je laisse à plus tard la réponse. Et la réponse, je vois moi-même que quand je suis calme, je peux écrire d'une façon différente. Autrement dit, je deviens chrétien dans mon attitude. C'est un conseil excellent. Allez trouver la personne que vous avez offensée avant que le soleil ne se couche. D'autre part, ne répondez pas tout de suite sur votre colère, parce qu'il est fort possible que votre réponse ou votre réaction ne soit pas bonne. Dieu nous ordonne, à travers la Bible, d'être miséricordieux. Eh oui, si nous sommes miséricordieux comme Dieu l'est à notre égard, nous éviterons beaucoup de difficultés dans notre vie. Mais souvent, voyez-vous, nous réagissons sous l'influence de Satan, ou de la nature humaine, ou suite à une, je dirais, suite d'amertume. Soyons miséricordieux comme Dieu est miséricordieux. Ça veut dire quoi, être miséricordieux? Ça veut dire pardonner, savoir pardonner. Lorsque vous avez fait du tort à quelqu'un, vous voudriez que la personne vous pardonne. Bien, agissez de la même façon envers les autres. Dieu veut que vous pardonniez aux autres. Dieu veut que vous soyez miséricordieux. Mais il nous ordonne pour que nous puissions nous-mêmes être miséricordieux. Notez ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 18, versets 21 à 22, où nous lisons, parce que le Christ parlait justement de miséricorde. Alors Pierre s'approche du Christ et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère ?» C'est une bonne question parce que nous voulons tous avoir la réponse. Alors Pierre a dit, « Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Quand vous savez, 7 est un chiffre qui est une totalité. Quelle a été la réponse du Christ ? Verset 22. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Autrement dit, si 7 est un chiffre de totalité, multipliez 7 par 70, si vous voulez. Voilà. Autrement dit, il n'y a pas de fin en ce qui concerne la miséricorde. Si quelqu'un vous demande pardon, accordez-lui le pardon. Avec cette attitude, voyez-vous, nous ne pourrons pas vraiment pécher. Pécher dans ce sens que nous pouvons pécher, certes, mais nous péchons, nous nous repentons et Dieu nous pardonne. C'est ici la façon d'être miséricordieux. La Bible, je répète, parle toujours du pardon divin. Et la Bible répète que Dieu nous pardonnera aussi souvent que nous nous repentons sincèrement, profondément de nos péchés. Et non pas des péchés que nous commettons ainsi que nous nous repentons artificiellement. Pas du tout. À nouveau, nous trouvons les paroles du Christ dans Matthieu chapitre 5, versets 21 à 22. Le Christ prend maintenant des écrits de l'Ancien Testament et il jette la lumière sur ses écrits. Il dit, vous avez entendu dire qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Ici, maintenant, c'est un acte que tout le monde comprend ce que c'est. Tuer, c'est un péché, tuer, c'est un crime, tuer, c'est vraiment désobéir à tous les commandements divins. Alors, le Christ a dit, vous avez entendu dire qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Et c'est vrai. Maintenant, ça c'était l'Ancien Testament, qui est aussi le Nouveau Testament, mais le Christ ajoute quelque chose. Et c'est ça qui m'intéresse dans ce sermon. Mais moi, verset 22, mais moi je vous dis, quiconque se met en colère, voyez-vous, même les sentiments de colère, se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Vous pouvez voir la différence? Comment le Christ exprime la miséricorde? Que celui qui dira à son frère « Raca » mérite d'être puni. Autrement dit, un mot désagréable. Et que celui qui lui dira « insensé », même un mot donc qui n'est pas juste, qui n'est pas préférable de ne pas s'en servir, mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Voilà jusqu'où le Christ met l'accent sur la miséricorde en ce qui concerne notre façon sous le Nouveau Testament. Cela ne veut pas dire que l'Ancien Testament n'est pas valable, parce que ceux qui tuent son prochain méritent déjà la mort. Mais ici, le Christ nous montre que même si nous offensons notre prochain par nos paroles, par nos actions, alors nous méritons également la mort. Voilà la différence. Et tout ça, ça peut aussi être causé par l'amertume. Et c'est souvent le cas. L'amertume nous fait devenir criminels. Et ça, c'est vraiment le cas. Il faut que nous puissions, nous tous, faire attention à cela. Le Christ, je donne des exemples parce qu'il faut que vous compreniez jusqu'où l'amertume vous mène. L'amertume est là, c'est quoi, un ennemi à votre porte ou bien un ennemi chez vous. Donc, à chaque occasion, si l'amertume peut vous détruire, sous l'influence de Satan, vous détruira. Voilà pourquoi le Christ a dit encore, et je cite, Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, regardez encore l'importance de se repentir. Laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens, présente ton offrande. » Et c'est ça dont nous avons besoin dans nos rapports chrétiens, dans nos rapports avec tout le monde, mais chrétiens surtout, parce qu'il faut avoir l'Esprit de Dieu en vous pour comprendre cette nuance. La Bible nous donne beaucoup d'exemples et aussi l'aide dont nous avons besoin pour pouvoir surmonter nos sentiments d'amertume. La Bible nous dit exactement, et également, comme vous pouvez voir, comment être miséricordieux. Si Dieu n'était pas miséricordieux envers nous, nous ne serions pas vivants. Nous n'aurions aucun espoir d'être dans la vie éternelle. Voilà pourquoi, lorsque vous étudiez la Bible, tâchez de comprendre que si vous ne pouvez pas dominer vos sentiments d'amertume, dans ce cas-là, il faut changer votre façon de vivre afin de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que nous pouvons voir en étudiant tous ces versets. Pratiquez la miséricorde, mes frères et mes sœurs. La miséricorde, c'est quelque chose que vous voulez que Dieu vous accorde. Mais si vous voulez que Dieu vous accorde, accordez-la également aussi à votre prochain. Ce n'est pas difficile, vous savez. Lorsque vous faites quelque chose de bien à votre prochain, vous vous sentez mieux. Vous avez des sentiments plus nobles. Donc, c'est à votre avantage. Voilà pourquoi je répète, chaque fois que vous avez l'occasion, tâchez de montrer de la miséricorde envers votre prochain. Prenez, par exemple, dans la journée, les moments où vous avez vous-même ou bien des occasions où vous pouvez voir l'influence de l'amertume, que ce soit en vous, que ce soit en les autres. Alors, chaque fois, dites-vous vous-même, est-ce que j'aurais pu éviter cette scène que j'ai faite? Est-ce que j'aurais pu éviter les fautes que j'ai commises? Si c'est le cas, dans ce cas-là, tâchez de l'éviter la prochaine fois. Je répète, la miséricorde est une qualité fantastique qui nous vient de l'Esprit Saint, La miséricorde est ce que Dieu nous accorde et qui nous permet d'entrer un jour dans son royaume. La miséricorde doit être notre prière quotidienne. Eh oui. Du reste, c'est ce que le Christ a dit. Les apôtres du Christ ne savaient pas comment prier. Ils lui ont dit un jour, écoute Seigneur, aide-nous à savoir comment prier. Enseigne-nous à prier. Et qu'est-ce que le Christ a donné? Il a donné ce qu'aujourd'hui on appelle la prière du Seigneur. Ce n'est qu'un exemple. Mais dans cette prière, le Christ a dit, d'abord, nous devons remercier Dieu. Ensuite, être reconnaissant de ce que nous avons. Apprécier ce que nous avons. Et ensuite, au verset 12, Matthieu 6, 12, regardez voir comment le Christ enseigne chacun de nous à prier. Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, et l'amertume est une offense, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous pouvez vous rappeler cette instruction dans la prière que le Christ nous a donnée, si vous pouvez mettre ça en pratique, rien qu'à ça en pratique, mettons, il y a déjà beaucoup d'espoir que vous puissiez toujours vous repentir de vos péchés. Parce que vous dites à Dieu, pardonne-nous comme nous-mêmes nous pardonnons. Je vous dis, c'est comme ça qu'il faut étudier la Bible. C'est comme ça qu'il faut vraiment réfléchir. Dieu nous montre le chemin du succès. Ce n'est pas facile de dire, je te pardonne, si ce n'est pas vraiment dans votre cœur. Et vous devez savoir que ça doit être dans votre cœur, car vous-même, comme moi-même, comme nous tous, nous ne sommes rien et Dieu seul peut nous pardonner. Si nous demandons à Dieu de nous pardonner, nous devons agir de même. C'est une autre façon, je dis, de vaincre l'amertume. Si vous avez cette certitude que Dieu vous pardonne et que vous a pardonné, dans ce cas-là, soyez plein de courage et soyez vous-même, avalez votre fierté, allez vers votre prochain. Dites, écoute, je t'ai fait mal, je te demande pardon. Allez-y, essayez-le. Je connais quelqu'un qui a de l'amertume dans son cœur. Je lui ai écrit une lettre. Je lui ai dit, écoute, va et dis à ton prochain que tu repens et que tu veux absolument qu'on te pardonne. Et vraiment, j'ai dit, fais ça, tu verras la différence. Pour le moment, je ne sais pas, il n'a pas encore fait. Mais je vous dis à vous qui m'entendez, qui m'écoutez, si vous avez de l'amertume contre quelqu'un ou quelqu'un vous a offensé, allez vous entendre avec lui. Allez lui parler, qu'il n'y ait pas de colère entre vous, qu'il n'y ait pas d'amertume. Vous verrez la réaction, vous verrez le bien que ça vous fera, à vous et aussi à votre ami. Dans Luc chapitre 6, verset 37, le Christ dit encore, ne jugez point. Voilà, une autre raison pour laquelle nous avons de l'amertume. Nous voyons des cas où nous ne sommes pas d'accord. Bon, vous n'êtes pas d'accord, si ce n'est pas votre domaine, oubliez-le. Laissez la personne qui est en charge de s'en occuper. Mais nous avons cette tendance que nous voulons, nous, changer les choses alors que nous n'avons pas le droit. Voilà pourquoi le Christ a dit, ne jugez point. Pourquoi? Vous ne serez pas jugés. Vous ne voulez pas qu'on vous juge, dans ce cas-là, ne jugez pas les autres. En même que ce soit votre métier ou bien votre domaine. Le Christ dit, ne condamnez point. Et combien de fois par jour nous condamnons les autres? Nous condamnons une action alors que ça ne nous regarde pas. Il dit, ne condamnez pas. Pourquoi? Pour que vous ne soyez pas condamnés. Absolvez et vous serez absous. Dans tout cela, comme vous pouvez voir, Satan le diable nous influence. Satan est condamné. Satan a plus d'espoir. Satan a tout perdu. Alors, il voudrait que vous et moi, nous perdions aussi tout. Que nous puissions suivre le chemin qu'il met devant nous, lui, et non pas le chemin que le Christ a mis devant nous. Nous devons être parfaits comme le Christ est parfait. Nous devons nous éloigner tout exemple que Satan nous donne. Et avec son astuce, parfois nous pensons que le chemin de Satan est plus agréable, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ne fermons pas les yeux sur les bénédictions que nous avons. Ne fermons pas les yeux sur les instructions divines. Mais fermons les yeux sur les astuces de Satan. C'est comme ça que vous pouvez vraiment arriver au but. Je vous dis franchement, mes frères et mes sœurs, dans mon ministère, je vois des cas où les décisions prises par les hommes parfois sont tout à fait insensées. Si chacun de nous s'occupait de ce qui nous regarde et pas du reste, nous serions beaucoup plus heureux, beaucoup plus tranquilles. Parfois, nos sentiments, nos jugements sont tellement ridicules que si nous étions vraiment des gens sensés, nous ne prions pas des choses pareilles. Nous ne commettrions pas des bêtises. Bêtises, oui, bêtises. Laissez-moi vous en citer une dans la Bible. Franchement parlant, je sais parce que moi-même, j'ai fait cette expérience, pas comme je vous cite ici. Par exemple, lorsque je suis malade, qu'est-ce que je fais? Selon la Bible, évidemment, je sais que la maladie, la plupart du temps, c'est le résultat du péché. Donc, je tâche de savoir où j'ai péché, où j'ai transgressé les lois divines qui dictent la santé. Ensuite, après avoir compris cela, je vais voir un ministre de Dieu pour que je puisse être loin. Alors, vous direz pourquoi? Parce que Dieu le dit. Dieu me dit, quand tu es malade, Jacques chapitre 5, verset 14, demande aux anciens de l'Église que les anciens prient pour toi, et si tu as commis des péchés, ils te seront pardonnés et tu seras guéri. Ça, c'est donc le principe que je suis, et tous les gens de l'Église, vous qui m'écoutez, si vous êtes dans l'Église de Dieu, vous le faites. Mais maintenant, prenez un exemple dans l'Ancien Testament qui montre comment on peut être idiot, je m'excuse du terme, on peut être idiot de demander à Dieu la guérison, ensuite de ne pas être d'accord avec Dieu. Si moi je ne suis pas d'accord avec Dieu et que je dois me faire oindre, alors pourquoi vais-je vers Dieu pour que je sois guéri? L'exemple que j'ai ici dans l'Ancien Testament se trouve dans 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5, verset 9. Naaman, c'est un chef, vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée, qui était donc un ministre de Dieu. Élisée lui fit dire, lorsqu'il a entendu que Naaman était là pour être demandé comment être guéri, Élisée dit, regardez voir. Ça peut être idiot, ça peut être stupide, mais vous allez, vous, vers un prophète de Dieu, pour que vous soyez guéri. Il dit, verset 10 de Rois 5, « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. » Je m'arrête. Pourquoi dans le Jourdain? Pourquoi pas quelque part ailleurs? Pourquoi 7 fois? Pourquoi pas 2? Ça, c'est le raisonnement humain. Raisonnement, je dirais, imparfait. Ensuite, ta chair deviendra saine et tu seras pur. C'est un ordre clair, simple. Mais ça n'a pas de sens humainement parlant. Vous direz, pourquoi ça? C'est exactement du reste ce que Naaman a fait. Verset 11. Vous allez, pour être guéri, regardez voir ce qui est marqué au verset 11. Naaman fut irrité. Autrement dit, il devient amer. Vous demandez la guérison, vous devenez amer. Mais pourquoi? Et il s'en alla en disant, « Ah, pourquoi? Qu'est-ce que tu disais ?» Maintenant, son raisonnement en lui, mettons, est tout aussi stupide, même beaucoup plus que ce que le prophète a dit. Il disait en lui-même, regardez voir ça, verset 11, en lui-même, je me disais que, c'est un homme en qui raisonne, le prophète sortira vers moi, bon, là c'est son idée, il se présentera lui-même, tiens, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main, mais écoutez, mais pourquoi ce raisonnement? Pourquoi voulez-vous que les choses aillent ainsi? Je continue. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Non, ce n'est pas comme ça qu'on demande à Dieu la guérison. C'était donc un exemple qui vous montre parfois comment nous demandons à Dieu quelque chose. Et ensuite, nous ne sommes pas d'accord avec la façon dont Dieu agit. Nous ne sommes pas d'accord parce que notre façon de penser est différente. Vous connaissez le reste. Naaman est devenu amer. Verset 12. Les fleuves de Damas, dit-il, de l'Abana, le Parpre, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux à Israël? Ne pourrais-je pas, moi, m'y laver? Et vous? Mais écoutez, vous demandez une chose et vous posez des conditions. Et devenir pur. Et Naaman s'allait, s'en retourna, et il partait avec fureur. Je peux dire, pour traduire, et il partait le cœur dans l'amertume. Ou bien dominé par l'amertume. Quel raisonnement stupide de la part de cet homme. Mais c'est ainsi que, je répète, nous agissons souvent. Dieu nous donne des instructions lorsque nous sommes malades. Nous devons les respecter. Et non pas de dire, voilà comment je voudrais être guéri. De la même façon, vous savez, lorsque vous vous faites oindre et vous n'êtes pas guéri tout de suite, pourquoi êtes-vous parfois déçu? Parce que vous voudriez être guéri sur place. Bon, c'est juste, c'est bien. Mais si Dieu préfère ne pas vous guérir sur place, dans ce cas-là, reconnaissez qu'il a entendu vos prières et qu'il vous exauce et que vous serez exaucé au moment opportun jugé par Dieu. Autrement, vous agissez comme Naaman. La façon divine, mes frères et mes sœurs, est toujours meilleure. Si vous la comprenez, si vous la demandez selon sa volonté, si vous faites votre part. Une autre raison d'être amer, c'est d'être jaloux. Dans ce cas particulier, mettons, si quelqu'un d'autre est guéri, lorsque vous êtes malade vous-même, si quelqu'un d'autre est guéri, tout de suite, vous ne l'êtes pas, vous êtes jaloux, vous êtes fâché, vous êtes amer. Et vous commencez à juger Dieu même. Là encore, si Dieu ne vous a pas guéri sur le champ même, soyez reconnaissant de ce que vous avez le privilège de le prier. C'est un privilège pour nous tous, une faveur spéciale que nous puissions nous adresser au Créateur suprême. Et oui, chaque fois que vous vous mettez à genoux pour prier, ne dites pas « Oh, il faut que je prie encore ». Non, c'est une faveur que vous faites à vous-même. Si vous saviez ça, si vous compreniez ça, chaque fois que le moment arrive pour vous de prier, réjouissez-vous-en. Dites « Oh, je suis content, je vais prier maintenant ». Est-ce le cas, ce qui vous concerne? Ou est-ce que vous dites « Oh, oh, il faut que je prie maintenant, je me demande s'il faut que je prie longtemps ou non ». Si vous aviez goût à la prière, vous ne compteriez pas les moments. Au contraire, vous seriez tellement heureux de pouvoir passer tant de moments avec Dieu ou avec le Christ en privé. Donc voilà ce que j'entends par ne pas devenir amer. Nous avons, nous tous dans la vie, des occasions où nous pouvons voir injustice. Mais lorsque vous pouvez voir que Dieu vous aime, que Dieu vous donne plus que vous ne méritez, et c'est le cas pour tous, dans ce cas-là, vous serez reconnaissant à Dieu. Que votre cœur soit plein de reconnaissance, soit rempli de reconnaissance. Si vous avez de la reconnaissance dans votre cœur, vous ne pouvez pas être amer. Et ça, c'est vrai. Je continue. Je vous ai souvent cité les paraboles du Christ, où les questions, comment le Christ nous montre comment un de nos membres, par exemple, se détourne de la vérité, ou bien, si c'était dans la vérité, comment nous devons-nous nous comporter? Si quelqu'un de la famille, si vous êtes dans l'Église, quitte l'Église, s'y revient, quelle sera votre attitude? Je vous ai souvent cité la parabole de l'enfant prodigue, mais laissez-moi prendre juste la deuxième partie de cette parabole. Autrement dit, l'attitude de l'enfant aîné, qui n'était pas censément prodigue, lorsqu'il revient, lorsqu'il voit la joie qu'il y a, surtout de la part du père, il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Alors on lui dit que ton frère n'était pas là, qu'il était perdu, il est revenu, et ton père maintenant fait un grand festin. Alors, si c'était vous, le grand, le fils aîné, comment est-ce que vous réagiriez? Le fils aîné, le sentiment de bon, le bon fils, était fâché. Il fallait que le père sorte de la maison pour revenir, pour lui demander de rentrer dans la maison. Et après, vous n'avez qu'à lire le reste, je n'ai pas le moment. Mais le fils aîné commence à dire toutes sortes de choses qui ne sont pas vraies. Il dit, tu ne m'as jamais ceci, donné ceci ou donné cela, alors que le père avait partagé déjà. Alors que le père avait partagé déjà la fortune. Dans Hébreux chapitre 12, versets 5 à 11, le Christ nous dit que parfois Dieu nous châtie. Si Dieu nous châtie, c'est toujours pour notre bien. Regardez comment c'est marqué. Hébreux 12, chapitre 5 à 11. Je prends juste quelques versets. Si vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils, « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » Voilà une phrase, voilà une instruction que nous devons apprécier. Le Seigneur châtie, verset 6, Hébreux 12, celui qu'il aime. Il frappe de la verge, tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Ensuite, Paul ajoute, supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Ensuite, c'est intéressant parce qu'il explique encore, d'ailleurs, dit-il, puisque nos pères, selon la chair, autrement dit, pères humains, nous châtient ou nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Je voudrais vous donner un exemple encore, je pense que j'ai le temps, un exemple très vivant, un exemple qui nous touche chacun de nous, presque chaque jour, chacun de nous, dans une parabole que le Christ a donnée. Le Christ a parlé du ciel, du royaume du ciel. Le Christ nous a montré que nous devons toujours faire confiance en Dieu, que Dieu est toujours juste, toujours bon, et qu'il nous bénit. Matthieu 20, versets 1 à 16. C'est vraiment intéressant. Prenez le temps de lire attentivement. Le Christ dit, le royaume des cieux est-il semblable à un maître de maison, donc lui-même, qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Je vais vous dire ici, en résumé, que le Christ nous appelle aujourd'hui, certains d'entre nous, dans son Église, et certains sont entrés il y a longtemps, d'autres entrent maintenant, d'autres entreront plus tard. De toute façon, le Christ appellera les gens comme il voudra, quand il voudra. Maintenant, c'est l'attitude des gens. Votre attitude, la mienne. Il convient, verset 2, il convient avec eux d'un denier par jour. Autrement dit, c'est clair, le salaire est fixé. Et l'ouvrier, celui qui est appelé, accepte. Ensuite, il les envoie donc ses ouvriers à sa vigne. Alors, il y a un contrat entre vous et le Christ, votre maître. Vous acceptez le contrat, et donc, ça y est, vous travaillez la journée. Qu'est-ce qui se passe? Le maître sortit la troisième heure, verset 3, et il vit d'autres ouvriers qui étaient sur place, qui ne faisaient rien. Il dit, et vous, allez aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui est raisonnable. Ici, il n'a pas spécifié le montant, il dit ce qui est raisonnable. Mais au premier, il avait dit, voilà ce que vous gagnerez. Ensuite, il va plus loin. Sixième heure, verset 5. Et il fait la même chose. Verset 6. À onzième heure, autrement dit, il n'y a qu'une seule heure qui reste pour les ouvriers, pour travailler. Qu'est-ce qui se passe? Onzième heure, il les trouve sur place, il leur envoie, il leur dit la même chose, il dit, je vous donnerai ce qui est raisonnable. Alors, j'abrège. Donc, le moment arrive pour être payé, pour ainsi dire. Les premiers arrivent, verset 10, croyant recevoir davantage. Mais pourquoi? Ils avaient reçu la promesse du chef, du patron, du maître, que s'ils travaillaient donc toute la journée, ils recevraient tant d'argent. Les autres avaient reçu la promesse qu'ils recevraient ce qui serait juste aux yeux du maître. Alors, voilà maintenant comment nous tous nous réagissons. Donc, les premiers qui reçurent, qui revinrent, et qui reçurent la même chose que les derniers, n'étaient pas contents. Ils étaient amers, ils étaient fâchés, ils voyaient injustice. Mais pourquoi? Ils avaient reçu et ils ont reçu ce que le maître leur avait dit, voyez-vous. Mais ils ne voulaient pas ça, ils voulaient davantage. Pourquoi? Ils dirent, verset 12, « Nous avons travaillé toute la journée alors que ceux-ci, ces derniers, n'ont travaillé une heure. Et tu les traites à l'égard de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la fatigue de la chaleur. » C'est vrai, c'est juste. Mais voyez-vous, ça c'est la façon humaine de voir les choses. Le Christ nous a donné et nous donne ce qu'il nous a promis. Si d'autres reçoivent plus que nous, ce n'est pas une raison pour nous d'être amers. Ces ouvriers étaient pleins d'amertume. La réponse du Christ est magnifique. Il dit, voyez-vous, il ne parle pas avec colère. Il dit, mon ami. Déjà, ça prouve la bonté du Christ. Il dit, mon ami, dit-il, je ne te fais pas tort. Tu n'es... Je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient. Va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Ensuite, on avait qu'à lire le reste. C'est beau. Il dit, est-ce que tu vois de mauvais œil le bien que je fais aux autres? Pour entrer dans le royaume de Dieu, nous ne devons pas voir injustice de la part de Dieu si Dieu se montre bon envers tout le monde. Du reste, ça va se passer, ça, vous savez. Ça se passe dans l'Église. Ça se passera dans le monde. Au dernier moment, le Christ sera bon avec des personnes, envers des personnes qui n'ont pas, eux, obéi à Dieu aussi longtemps que vous avez obéi à Dieu. Qui n'ont pas observé les commandements de Dieu aussi longtemps que vous, peut-être, avez observé les commandements de Dieu. Alors, si ce moment arrive, direz-vous à Dieu, écoute, tu leur donnes plus que moi ou bien je mérite plus. Voilà comment, je répète parfois, l'amertume remplit nos cœurs. Voilà comment l'amertume détruit notre occasion de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. L'amertume, les raisonnements humains, les pensées de Satan peuvent vraiment nous détruire à moins que nous puissions, nous, suivre la voie du Christ, la voie que le Christ a mise devant nous. L'apôtre Paul a écrit dans Romains chapitre 6, verset 23, « Le salaire du péché, et l'amertume est un péché. Le salaire du péché, dit sa mort. La vie éternelle, dit-il en Jésus-Christ, c'est le don de Dieu. Le don de Dieu parce que vous avez le Saint-Esprit de Dieu qui vous permet de comprendre ces vérités indispensables. N'oubliez pas les recommandations du Christ. N'oubliez pas les recommandations de l'apôtre Paul. Notez ce qu'il écrit en disant dans Éphésiens chapitre 4, versets 31 à 31. Regardez-le voir comme c'est clair. Que toute amertume, voilà, c'est directement le mot dont nous nous servons aujourd'hui, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Voilà. Voilà comment arriver au but. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Si vous prenez le temps, mettez-vous à genoux, lisez ces deux versets. Dites à Dieu, écoute Dieu, voici ce que je vais faire. Je vais vraiment suivre cette recommandation. Donne-moi la force, donne-moi la compréhension, donne-moi l'appréciation de ce commandement que tu me donnes. Si vous faites cela, si vous remerciez Dieu chaque jour, si vous ne voyez pas injustice alors qu'il y a justice et bonté de Dieu, dans ce cas-là, non pas seulement vous ne serez pas victime de l'amertume, mais vous serez un candidat absolument certain du royaume de Dieu.